Éternel, mon Dieu, mon Père, Créateur des cieux et de la terre, je te loue, je te glorifie, Père, je bénis ton saint nom, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, j'élève ton saint nom, ô Père céleste, je te remercie de me donner la grâce de paraître encore devant toi, Seigneur, de venir devant ta face pour parler de ta part, ô Père. Donne la puissance à ta parole, ô Éternel des armées. Je suis là, là, Seigneur, non pas pour semer la confusion, mais pour éclairer. Permets que ce partage soit un moment de grâce pour moi et pour mes frères et sœurs qui m'écoutent. Soit un moment de révélation, de dévoilement dans le nom de Yeshua. Ô Éternel, mon Dieu, mon Père, je prie qu'à partir de ce partage, Seigneur Père, oh, que notre connaissance à tous augmente, notre connaissance du Messie Yeshua augmente, afin que nous puissions mieux le connaître pour mieux le servir, ô Éternel des armées. Je suis entièrement tes mains, Seigneur. Maintenant, donne-moi la grâce de dispenser droitement de ta parole et que toute la gloire te reviennent dans le nom de Yeshua. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je te l'ai demandé, je suis là, non pour semer la confusion, mais pour éclairer la Seigneur, qu'il en soit ainsi la paix, et que ton esprit, comme tu l'as promis, soit en œuvre dans tous ceux qui m'écouteront, Seigneur, et soit en œuvre aussi en moi, afin que tout ce que je dirai soit esprit et vie au nom de Yeshua. Ô Père, je te laisse toute la latitude, Seigneur, de parler de ton Fils, ô Éternel des armées. Merci, ô Père. Gloire te soit rendue dans le nom de Yeshua. Amen. Mes frères et sœurs, je vous salue, quelle que soit votre position. Que la paix que ce monde ne connaît pas nous soit donnée à tous. J'espère que ce partage que je vais faire ne vous rendra pas confus, mais éclairera vos lanternes, afin que nous puissions tous avancer vers la statue parfaite du Messie. Et nous allons aujourd'hui, effectivement, parler du Messie. Yeshua. Donc, j'ai intitulé ce partage « Mi Ata Yeshua ». Qui es-tu, Yeshua? Ah oui, c'est un vaste sujet. Alors, vous allez dire, ah oui, le frère, c'est attaché à quelque chose, ou bien c'est attaqué plutôt à quelque chose de vaste et de difficile. Mais oui, je voudrais en parler. C'est lui-même qui disait, Yeshua, lorsqu'il était sur cette terre, disait à ses apôtres, demandait plutôt, qui dites-vous que je suis, ou bien que dites les gens que je suis? C'est lui qui leur a posé cette question. Mais moi, je voudrais partir de Actes, le livre des Actes, chapitre 9 et au verset 5. Nous connaissons tous ce passage lorsque Shaoul, animé d'un zèle religieux, est parti à Damas pour lier les chrétiens, ou bien les croyants, parce que les chrétiens n'existaient pas à cette époque, lier les croyants, les disciples de Yeshua, les lier et les amener. Et sur la route, la Bible nous rend témoignage, comme lui-même va rendre témoignage au roi Agrippa. Il a dit qu'il a entendu Yeshua lui parler en langue hébraïque, parce que c'est la langue que Shaoul parlait. Peut-être qu'il parlait aussi d'autres langues, comme on nous a dit que c'était un érudit. Dans le verset 4, il tomba par terre, entendu une voix qui lui disait, « Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Yeshua que tu persécutes. Offrirais-tu une résistance vaine, périlleuse et ruineuse ? » Je vous avertis que je vais utiliser aujourd'hui la version messianique de la nouvelle alliance ou bien du Nouveau Testament, Habrit Hadasha, qui est intitulé la Torah accomplie. Cette tradition est sortie en mars 2021. Et puis, en ce qui concerne les écritures de l'Ancienne Alliance ou bien de l'Ancien Testament, donc je vais utiliser la tradition de Zadok Khan, l'ancien grand rabbin. Je vais utiliser sa version, d'accord, puisque nous allons faire quelques considérations en hébreu, oh, pas beaucoup quand même, mais je vais lire cette tradition-là. Voilà, je trouve que c'est plus comme ce sont les messianiques des juifs qui ont traduit tout cela. Je pars du principe que c'est plus proche du texte original. Donc c'est pour cela. Mais je vous invite à utiliser plusieurs traditions. Il est vrai que la parole de Dieu en tant que telle ne change pas parce que c'est la parole de l'Éternel Dieu. C'est une vérité absolue, mais les traditions peuvent changer parce que les gens qui ont traduit étaient animés d'un arrière-plan idéologique également. Quand vous voyez Louis II, non seulement il a enlevé certaines choses, certaines choses qui ont été rétablies dans le second 21 et qu'il met en parenthèse. Hein? D'accord? Par exemple, quand on parle de Yeshua, le nom de Yeshua ou bien de traduit, translittéré en Jésus n'est apparu que tardivement. Avant, dans toutes les traditions, si vous voyez la Bible de l'épée de Calvin, c'était Jésus, c'est-à-dire qu'ils ont conservé le nom grec du Seigneur Yeshua. Donc ici, Yeshua, c'est Jésus en français, d'accord, c'est Jésus en français, mais je vais plus utiliser Yeshua. Et je vais aussi utiliser Elohim ou bien l'Éternel Dieu, c'est-à-dire Elohim et le tétagramme, d'accord? Voilà. D'abord, nous allons aller au commencement. Donc, je vous ai dit que je vais parler de Yeshua aujourd'hui. Qui es-tu, Yeshua? Voilà. D'abord, je fais un premier audio comme une introduction. Et dans un deuxième audio, je vais voir ce que Yeshua disait de lui-même, ou bien dit de lui-même, puisqu'il est encore vivant. Il dit de lui-même. Et il a dit dans une de ses paroles que Moïse a écrit de lui. Donc, je vais retourner dans la Torah, ben, puisque les livres de Moïse, c'est la Torah, c'est les cinq livres, pour voir ce que Moïse a écrit. Et pour voir aussi si c'est la vérité, parce que la vérité doit être cohérente avec elle-même. Donc, ce principe doit nous guider, va nous guider tout le long de notre partage. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, mes frères et sœurs. Vous trouverez, il y a quelques mois ou bien quelques années, c'est en 2020, 2021, donc j'ai fait un écrit sur Yeshua. J'ai écrit « Donner à Jésus ce qui est à Jésus », c'est-à-dire son nom, voilà. Et il y a tout récemment, j'ai aussi parlé du nom de Dieu, du nom de l'Éternel Dieu, parce que le Dieu, c'est pas son nom, c'est pas son nom, Dieu, c'est pas son nom. Là aussi, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais Dieu, ça nous vient des Grecs, hein. Le terme Dieu, c'est le terme générique, la désignation générique de l'Éternel Dieu, mais c'est pas son nom. La preuve, si nous allons donc dans Ésode, hein, c'est l'Éternel lui-même qui l'a dit dans Ésode lors de la rencontre avec Moïse, vous voyez, avec Moïse, il a dit quelque chose, c'est dans le chapitre 23, hein, je ne voudrais pas commencer par là, mais puisqu'on parle du nom de Dieu, mais d'abord, on va aller dans le premier livre de la Bible, Genèse, c'est le livre des commencements, de tous les commencements, Et ce qui est écrit au commencement doit aussi être écrit dans les derniers livres de la Bible, c'est-à-dire la Révélation. Donc la Bible nous dit, au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Donc, Bereshit, bara Elohim. Voilà. Donc, je l'ai aussi expliqué dans un autre audio, dans un précédent audio, que en hébreu, ici, bon, c'est-à-dire que le premier chapitre ne nous parle pas en tant que en détail de la création des cieux et de la terre et de ce que l'Éternel Dieu a fait. C'est un compte rendu condensé. Voilà, parce que on ne nous dit pas l'Éternel Dieu, Elohim ne nous dit pas comment il a créé l'eau, comment les ténèbres sont arrivées, ainsi de suite. Donc ces trois premiers chapitres versets plutôt, n'ont pour but que de nous rendre compte de la venue de la lumière, de la venue de la lumière, qui est la lumière du Messie, qui est le Messie lui-même. Parce que la Bible nous apprend dans le livre des Révélations que Yeshua s'est offert une fois pour toutes avant la fondation du monde. Donc, vous voyez, l'Éternel Dieu avait tout prévu, même avant la fondation du monde. Yeshua s'était déjà donné en sacrifice dans le temple céleste avant que cela ne vienne se concrétiser, donc, sur cette terre. Des siècles, des siècles, des siècles plus tard. En plus, l'Éternel Dieu n'est pas dans le temps, puisque le temps lui-même a été créé pour nous, hein, pour nous les êtres humains. Voilà. Et pour le monde, pour pouvoir régir ce monde. Donc, la Bible nous raconte que au commencement, donc, Dieu fait venir la lumière. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans le verset 3, que la lumière soit et la lumière fut. Voilà, donc c'est ce que la Bible nous dit. Et en expliquant par le contexte, on se rend compte que ces trois versets étaient là simplement pour nous parler de cette lumière qui est le Messie qui est venu dans le monde. Vous voyez, déjà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais mes frères et sœurs, si nous maîtrisons un peu l'hébreu, vous voyez, nous connaîtrons beaucoup, beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses erronées, beaucoup de choses erronées que la religion véhicule. Mon objectif, c'est pas de rendre confus les gens, mais c'est d'apporter des explications, une lumière, voilà, d'apporter une lumière sur certaines choses. Vous comprenez, mes frères, c'est parce que la Bible nous dit que notre foi doit être affermie par la vérité. Et non pas les fables, et non pas les fables. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de fables dans la religion. Donc, d'abord, on voit que l'être que nous appelons Dieu, qui est Elohim, Elohim, donc, a dit qu'il a créé les cieux et la terre. Même quand on décompose le mot Bereshit, on se rend compte qu'on peut le décomposer par les lettres hébraïques, même également par la signification de ces lettres que le Fils créa, ou bien le Fils a été, dont la main a été détruite par Dieu. Vous voyez, qui nous parle déjà de la crucifixion. Donc voilà, donc ce sont des méthodes exégétiques pour pouvoir expliquer la parole de Dieu. D'accord, mes frères et sœurs? Allons seulement. Et déjà dans le chapitre 3, il y a un autre nom donc qui est apparu, l'Éternel, c'est-à-dire le tétagramme. Le tétagramme Yod-Heh-Vav-Heh, voilà le tétagramme qui aujourd'hui n'est plus prononcé, même si il y a beaucoup de gens le prononcent pas Yahweh ou Yahvé ou Yehowa, je l'ai aussi expliqué, je l'avais déjà expliqué. Ou bien nous pouvons voir que le nom des prophètes se termine par Yahou, Yahou, voilà. Et des fois, les noms commencent par exemple, Yéonatan, Yéonatan, ou l'Éternel a donné. Donc, ce nom peut être lui, en tout cas, je ne sais pas, hein, parce que quand Yeshua reviendra Donc, il nous donnera la prononciation exacte, puisqu'aujourd'hui, on a perdu cette prononciation. Mais quand on voit les prophètes, on peut être d'accord que, ben oui, on peut dire Eliyahu, par exemple, Esaïahou, Yérémiaou, voilà, donc, c'est ça. Ou bien, Yéonatan, l'Éternel a donné. D'accord? Ou bien, Yéhoshua, comme Josué, qu'on n'attendait pas Josué, l'Éternel est salut ou l'Éternel sauve. D'où le nom du Messie, le nom du Messie tire de là-bas. Yéhoshua, Yéhoshua ou Yéhoshua ou Yahushua. Parce que quand on dit le loué soit l'Éternel, c'est Alléluia. Donc avec le diminutif Yah, qui est le nom de Dieu abrégé. On peut dire ça comme ça. Voilà, donc... Voilà, parce que dans Ésode, donc on voit ça dans Ésode 23 déjà, on voit Ésode 23, ou Ésode 23, ou bien Ésode 24, bon, je me perds un peu, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de versets, donc à lire beaucoup de versets. À lire donc Ésode 23, où déjà dans ce verset, d'abord dans ce verset, bon, on va lire ça et puis on va aller en avant. Donc, nous avons vu que l'Éternel Dieu, donc, en conduisant donc le peuple jusqu'à un certain niveau, a dit par exemple que non, il ne va plus conduire parce que c'est un peuple au courroies qui va envoyer son ange. Et il disait à Moïse, j'enverrai devant toi un mandataire, c'est-à-dire pour te conduire, chargé de veiller sur ta marche et de te conduire au lieu où je t'ai destiné. Sois circonspect à son égard et docile à sa voix, ne lui résiste point, il ne pardonnerait pas votre rébellion car ma divinité est en lui. Vous voyez, et effectivement, lorsqu'on prend le nom de Yeshua, on voit que le nom de Dieu est en lui, est dans son nom. Le nom de Dieu est dans son nom. Il est vrai que d'autres personnes en Israël s'appelaient comme ça, mais ce qui est caractéristique de Yeshua, c'est que on nous a dit que on a ajouté un titre à ce nom, Yeshua HaMashiach, c'est-à-dire le Messie. Le Ha en hébreu est déterminant, désigne le particulier, celui-ci, lui-là, lui, spécifie donc la personne. Parce que ce que beaucoup de chrétiens, en tout cas aujourd'hui, oublient, c'est que Barabbas aussi s'appelait Yeshua. Ben oui, parce que les traducteurs ont eu peur de mettre ça dans la tradition, en tout cas dans la Bible, ils ont eu peur parce que Pilate a bien dit dans certaines Bibles, je pense que dans Martin ou Ostéval, ils ont conservé cela. Que voulez-vous que je libère? Barabbas, Yeshua ou Yeshua appelé le Messie? C'est ça, d'accord? Donc aujourd'hui, ce problème-là également, ce choix se pose à l'humanité. Lequel voulez-vous choisir? Yeshua, le Messie, ou bien l'anti-Messie qui vient? Voilà, ce choix se pose. Ce choix s'était déjà posé à l'époque et on a laissé le brigand, parce que Barnabas était un zélote, était quelqu'un qui voulait libérer le peuple par la force, par la guerre, en chassant les Romains. Donc, c'était quand même un anti-messie parce que il se présentait au peuple comme un messie, Barabbas, comme un libérateur, parce que la notion messianique, c'est un libérateur, un roi libérateur, c'est-à-dire loin de l'Éternel, parce que messier, c'est ça, oindre, qui a été traduit par Christos, par les Grecs, Jesus Christos. Christos, voilà, donc c'est ça, d'où nous vient le terme Christ. Donc quand on dit Jésus, Christ, C'est pas très correct. On peut dire Jésus le Christ. Donc Jésus le Christ ou Yeshua le Messie, on peut le dire. Mais disant Jésus-Christ, c'est pas très correct parce que avec le temps, beaucoup de gens pensent que c'est son nom et prénom. Mais non. Dans la Bible, il y a que des noms qui ont une signification particulière. Et ces noms-là donnent la mission de la personne qui les porte. Par exemple, Yehoshua, Josué, ouais, on lui a donné ça. Il a libéré son peuple, il a libéré le peuple, il a introduit dans la terre promise. De la même manière, Yeshua aussi, le Messie, nous introduit dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. D'accord? Il nous introduit, puisque nous naissons, quiconque croit en lui naît dans ce royaume. Donc, revenons un peu à notre étude. Donc, nous voyons apparaître, donc, dans la Bible, un être qui est très proche de Dieu, ou même l'Éternel, même Dieu dit ici que, et voilà, c'est-à-dire que le Père dit, Dieu, Elohim dit que il va envoyer un mandataire, son mandataire. Or, la Bible nous dit que Yeshua est l'image de Dieu, l'image du Dieu invisible. Vous voyez, l'image de Dieu, c'est son lieutenant, c'est son mandataire. Et l'Éternel, même Dieu, l'a dit, lorsque Yeshua se faisait baptiser, il lui a dit quoi? Que j'ai mis mon affection en lui. J'ai mis mon affection en lui. D'accord? Mon affection. C'est en lui qui est mon fils bien-aimé. J'ai mis mon affection en lui. D'accord? Il a mis tout en lui, son affection, son amour est en lui. Il est son représentant. Yeshua lui-même l'a dit. Celui qui l'a vu a vu le Père. Pourquoi il a dit à Philippe? Pourquoi dit, tu me dis de te montrer le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Il est son représentant parce que le Père ne peut pas être vu. C'est ce que le Père a expliqué donc à Moïse, à Moïse. Et nous voyons également un dialogue étrange, curieux entre Abraham et l'Éternel Dieu et un autre être qui est l'ange de l'Éternel. Ouais, donc selon dans le judaïsme, on l'appelle l'ange de la face. L'ange de la face. On nous dit, après ces choses dans Genèse 22, Elohim dit à Abraham, allez, mis Abraham à l'épreuve. Voilà, donc c'est Elohim qui lui a parlé. Nous reviendrons sur ces choses-là. Vous allez voir que c'est très intéressant. Et la Bible nous dit dans le verset 11, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Selon les commentateurs juifs, Abraham ne pouvait pas obéir à un ange. C'est-à-dire que l'Éternel lui a, Dieu lui-même, Elohim, lui a dit quelque chose. Bon, c'est quand même parlant de voir que c'est le mot Elohim qui a été utilisé ici. Bon, on a dit Dieu, vous voyez, Dieu. C'est Elohim qui a été utilisé. Et après, on parle de l'ange de l'Éternel. Vous voyez, on parle de l'ange de l'Éternel. Donc, Elohim a dit à Abraham, et après, c'est l'ange de l'Éternel qui a parlé à Abraham. Il l'appela des cieux. Les commentateurs disent que Abraham ne pouvait pas obéir à un ange, que c'est l'Éternel lui-même qui lui a parlé. Vous voyez? Donc il y a comme une permutation entre l'ange de l'Éternel et Dieu lui-même. Et Elohim lui-même, l'ange de cet ange de l'Éternel, donc qui parle des fois à la place de l'Éternel lui-même. On le voit également dans l'expérience de Moïse dans le buisson ardent. Donc, il y a quand même cet être-là qui est là en permanence et qui dialogue, qui même pardonne les péchés. Oh, la Bible nous dit qu'un ange ne peut pas pardonner les péchés. Un ange ne peut pas pardonner les péchés parce qu'un ange est un serviteur, est un serviteur. Simplement un serviteur. D'accord? Voilà. Donc, dans le dialogue de l'éternel, l'ange de l'éternel, donc avec Moïse, la première rencontre, ou bien l'expérience du buisson ardent. Donc, l'éternel vit, on nous dit dans le verset 4, l'éternel vit qui s'approchait pour regarder. Alors, Elohim l'appelait. Vous voyez, il y a plusieurs termes qui ont été. Peut-être que c'est des signes que l'éternel, que l'Esprit de Dieu nous donne, parce qu'il n'y a jamais de hasard dans la parole de Dieu. D'abord, c'est le tétragramme, vit qui s'approchait pour regarder. Alors, Elohim l'appela du sein du buisson, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici, repris. N'approche point d'ici, ôte ta chaussure, car l'endroit que tu foules est un sol sacré. Il ajouta, je suis la divinité de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaïe, de Jacob. Moïse se couvrit le visage, craignant de regarder. Le Seigneur, l'Éternel poursuivit. J'ai vu l'humiliation de mon peuple qui est en Égypte, ainsi de suite. D'accord, voilà. Ouais, on en dit ici, l'ange de l'Éternel lui apparut dans un jet de flamme au milieu d'un buisson. Et voyez, donc il y a cette permutation, c'est ce changement, hein? Ou bien l'un prenant la place de l'autre à chaque fois. D'accord? Donc c'est quand même étrange, mais bon, ça se comprend, ça se comprend. Et au fur et à mesure, donc, nous allons découvrir cela. Alors, Moïse dit le verset 13 à Dieu. Or, je vais trouver les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères, l'Élohim de vos pères m'envoie vers vous. S'ils me disent, quel est son nom? Que lui dirai-je? Elohim répondit à Moïse, je suis l'être immuable. Voilà, immuable. Ehéwé, je suis l'être immuable. Et il ajouta, ou bien je suis ce que je suis, je serai ce que je suis. Parce qu'il y a, c'est le verbe être avec le verbe convertir qui permet de passer du passé au futur, du présent au passé. Donc je suis l'être immuable. Et il ajouta, d'où le thème éternel qu'on a donné au tétragramme. Et il ajouta, ainsi parleras-tu aux enfants d'Israël, c'est l'être immuable qui m'a délégué auprès de vous. Elohim dit encore à Moïse, parle ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, c'est le Yod He Vav He, le Dieu, l'Élohim de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaïe, de Jacob m'envoie vers vous. Tel est mon nom à jamais, tel sera mon attribut dans tous les âges. Donc, le Dieu, l'Élohim que nous adorons, a un nom. D'accord? Hein? A un nom. Il est le Dieu d'Abraham et de Jacob. Il ne sait pas, il s'était révélé à Abraham comme El Shaddai, mais pas sous son nom. Voilà, mais pas sous ce nom-là. C'est ce qu'il va dire. Hein? D'accord? C'est ce qu'il va dire également à Moïse dans un autre chapitre. Voilà, donc l'Éternel, donc des fois, parle à Moïse, Elohim, et puis après on a aussi l'ange de l'Éternel, donc qui permute, qui prend la place de l'Éternel Dieu, et qui même des fois pardonne les péchés, l'Éternel dit que son nom est en lui. On voit ce texte-là, donc qui est attaché donc à l'Éternel Dieu, qui le remplace et qui parle des fois à sa place, ainsi de suite. Voilà. Donc, or, la Bible nous dit que seul Dieu peut pardonner le péché. Donc, cet ange de la face, est quand même particulier. Est quand même particulier. Et nous voyons que, avec même le père de Samson, même avec Gédéon dans le livre de Samuel et tout ça, nous voyons tout ce monde-là. C'est comme si ils avaient déjà connaissance, parce que quand on voit le dialogue que le père de Samson a eu avec cet ange-là, l'ange de l'Éternel, c'est comme s'il le connaissait déjà. C'est comme si c'est un ange qui visitait régulièrement donc la terre d'Israël, puisque même lorsque nous avons lu tout à l'heure dans Ésaü, verset 20, 23, La Bible nous apprend que l'Éternel a donné mandat à cet ange de conduire le peuple et de le précéder même, de précéder le peuple dans ce pays de Canaan, dans le pays de Canaan, mes frères et sœurs. Donc, je suis en train simplement de bâtir un peu le tableau. Donc, la Bible, dans le livre de Genèse, nous dit que Élohim créa les cieux de la terre. Après, au chapitre 3, apparaît un autre nom accolé à Élohim, qui est traduit par l'Éternel Dieu, ou le tétragramme. Et Elohim, voilà l'Éternel Dieu. Et la Bible nous apprend aussi que Dieu a envoyé sa lumière, cette lumière-là qui est incréée. Et selon les commentateurs, donc, cette lumière, c'est le Messie, c'est la lumière du Messie. Et quand nous allons dans la livre des révélations, c'est-à-dire l'Apocalypse, on nous dit que Yeshua, le Messie, s'était déjà offert avant la fondation du monde. Et lorsque nous passons les siècles, les siècles, les siècles, et que nous venons donc au temps où Yeshua est apparu dans ce monde, nous lisons dans encore la suite du commencement. Dans Jean chapitre 1, on nous dit, au commencement était la parole était avec Ha Elohim. Je lis dans la version messianique, Ha Elohim, c'est le Dieu, avec le Dieu. Et la parole était Elohim. Voilà. Celle-là même était au commencement avec Ha Elohim. On nous apprend que toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Voilà, donc en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. C'est comme si nous recommençons ce que nous avons lu tout à l'heure. Or, on nous spécifie les choses, on nous éclaire. Donc, le Nouveau Testament est à peu près le commentaire, donc, de l'Ancien. Donc le Nouveau Testament explique, donne une lumière sur certaines choses que nous n'avons pas connues auparavant, que nous ne pouvons pas appréhender auparavant. D'accord, cette lumière. On nous dit qu'au commencement, donc cette parole est en même temps la lumière dont nous allons donc à la lumière du commencement missionnaire. Et cette lumière éclaire les ténèbres, puisque au commencement aussi, et lors de la création, donc les ténèbres sont apparues. Donc la lumière doit être là pour chasser les ténèbres, pour les tenir à distance, pour les tenir donc à distance. Donc cette lumière, donc est venue dans le monde. Cette lumière, donc, est en même temps la parole. C'est-à-dire que éclaire, lève le voile, éclaire, donne la vue aux aveugles. Aux aveugles, donne la vue aux aveugles. C'est pourquoi Yeshua disait aux pharisiens que parce qu'ils disaient qu'ils voyaient, et c'est pour cela que leur péché demeure. S'ils avaient dit, oh Seigneur, nous ne voyons pas éclair, nous voilà, ils seront éclairés. Mais non, ils disaient qu'ils ont la vue, qu'ils voient plus clair que le Messie lui-même. Alors, Yeshua leur a dit, ok, comme vous dites que vous voyez, donc vous demeurez donc dans vos péchés. Et la Bible nous apprend que dans le verset 14 de Jean 1, que cette parole a été faite chair. Elle a tabernaclé parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà. Tout est expliqué. Tout le puzzle est maintenant bien expliqué comme il faut. Cette parole, donc, est le Fils unique venu du Père. Il était unique jusqu'à ce qu'il aille sur la croix. Après la croix, il est devenu le premier-né de plusieurs frères. Il est devenu le premier-né de plusieurs frères. Il était fils unique jusqu'à la croix. Et après la croix, il est devenu le premier-né. Comprenons bien les choses, puisque le salut a été rendu capable pour l'humanité tout entière. Quiconque croit en Yeshua reçoit
le pardon de ses péchés même aujourd'hui, puisque ce sang, ce sacrifice est éternel, ce sacrifice a été fait même avant la fondation du monde. Donc, nous relions la parole, la lumière au Fils unique venu du Père. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? On nous dit que la Torah a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Christ Yeshua. Et Yeshua lui-même, le fils qui c'est le c'est Jean qui parle, hein, Jean qui parle, Yohanan Hamatzbil, Jean le baptiseur, Yohanan Hamatzbil. Personne n'a jamais vu Ha Elohim. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui-là qui l'a fait connaître. Ah, ce verset est capital. Personne n'a jamais vu Ha Elohim. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alors là, donc si personne n'a jamais vu Ha Elohim, c'est-à-dire Dieu, le Père, personne ne l'a jamais vu. Donc cela veut dire que Abraham ne l'a jamais vu, Moïse ne l'a jamais vu. Les anciens d'Israël, voilà, parce que revenons dans Exode verset 24, verset 24, et nous lisons une expérience des anciens d'Israël. 24, lisons dans le verset 10. À partir du verset 9. Moïse et Aaron remontèrent, accompagnés de Nadab, Abihu et des 70 anciens d'Israël. Ils contemplèrent la divinité d'Israël sous ses pieds, quelque chose de semblable au brillant du saphir et de limpide comme la substance du ciel. Mais Dieu ne laissa point sévir son bras sur ses élus des enfants d'Israël. Et après avoir joui de la vision divine, ils mangèrent et burent. Voilà, d'accord, ils ont mangé et bu pour qu'ils ne pensent pas que c'était une vision. D'accord? Qu'ils ne pensent pas que c'était un rêve qu'ils avaient fait. C'est pourquoi Dieu les a laissés manger et boire. Ça, c'est une réalité qu'ils ont expérimentée. Donc, la Bible nous dit qu'ils ont vu le Dieu d'Israël, la divinité d'Israël, et que cette divinité avait un pied, sous ses pieds. Or, la Bible nous dit, même dans une partie, Moïse l'a dit aux Israélites, qu'ils n'ont pas vu de forme du Dieu d'Israël, ils ont vu, ils n'ont entendu que les paroles, mais on nous parle ici du pied. Du pied. Oh, la Bible nous dit que Dieu n'a pas de forme, n'a pas de pied, mes frères et sœurs. Hein, n'a pas de pied, n'a pas de forme, ce qui fait que c'est vraiment quelque chose qui dérange. De la même que la vision d'Ézéchiel aussi dérange, puisque là, Ézéchiel dit qu'il a vu le Dieu d'Israël et qu'il y avait une robe assise sur un trône. Et que ses robes pendaient jusqu'à ses pieds. Vous voyez, c'est quand même étrange. Mais néanmoins, nous pouvons comprendre cela, parce que lisons encore, toujours dans la Bible, concernant le nom de Yeshua, je voudrais être clair avec tout le monde. C'est pas Yeshua lui-même ou ses parents qui lui ont choisi ce nom-là. C'est l'ange, sous la recommandation de l'ange Gabriel, dans le nom, celui qui se tient dans la puissance de Dieu, Gabriel, Gavura, la puissance de Dieu, qui est venu voir Myriam et lui a dit de donner ce nom-là. Son passage, c'est Dieu même qui a choisi de donner ce nom, Yeshua, parce qu'il dit qu'il a son nom en lui. Il a placé toute son affection en lui. Hein? L'Éternel sauve pour désigner sa mission. Nous pouvons lire ça dans Luc 1, le verset 31 et Luc 2, le verset 21. Nous n'allons pas lire cela. Et nous avons vu que la Bible nous dit que Yeshua, dans 1 Corinthiens, dans Colossiens 1, le verset 15 et 16. On nous dit que c'est en lui qui a été créé toute chose. Vous le verrez aussi dans Romains. C'est en lui et c'est pour lui, par lui, que toutes choses ont été créées. Or, Dieu seul est créateur. Donc, le Messie est de nature divine alors. Et s'il a créé, donc il était au commencement alors. Donc, c'est ce que nous allons prouver à travers donc ce que nous dirons dans l'audio 2 et l'audio 3. Parce que je vais refuter, je l'ai déjà fait par écrit, hein, je l'ai déjà fait par écrit, tout cela qui disent, certaines personnes qui disent que Yeshua, c'est l'ange Michael, non pas du tout. L'ange, les anges sont des créatures, sont des purs esprits, sont des créatures de Dieu, d'Elohim. Donc, il ne peut pas être créateur. Seul l'éternel Dieu est créateur. Seul, voilà, la divinité est créateur. Ou bien préexistait avant tout. Avant tout, avant tout, avant tout. Si nous lisons dans Philippiens 2, le verset 9, c'est pourquoi aussi Ha Elohim l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que le nom de Yeshua, tout genou fléchit dans toutes les choses qui sont célestes, dans toutes les choses qui sont terrestres et sous la terre, et que toute langue confesse que Christ Yeshua est Seigneur à la gloire de Ha Elohim, le Père. Donc nous voyons que Ha Elohim, c'est le Père. Elohim, c'est le Père. En tout cas, ça désigne en priorité le Père. Ha Elohim. Elohim, le Père. Et nous lisons que dans Colossiens 1, le verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, seigneur, domination, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Vous avez vu qu'après le péché, directement, il y a l'Éternel, parce que l'Éternel est attaché à ce nom, les attributs de miséricorde, c'est pour cela, parce que c'est ce nom-là qui régule le péché, parce que la Bible, Elohim a dit à Moïse que l'homme ne peut pas le voir et vivre. Ouais, l'homme ne peut pas se tenir, un être humain ne peut pas se tenir dans la présence de l'Éternel, d'Elohim. Il va être totalement écrasé, totalement, voilà, parce que le péché nous a tellement abîmés que nous ne pouvons pas nous tenir dans la sainteté d'Elohim. Mais frère, comprenons, c'est pour cela que l'Éternel est apparu, parce que c'est avec un attribut de miséricorde, qui pardonne le péché. L'Éternel Dieu est juste, mais il est aussi miséricordieux pour pardonner le péché. Il est amour, mais il est aussi justice. Il jugera le pécheur conformément à son péché. Et il aime l'humanité, mais il est le péché. Il est le péché. D'accord, mes frères et sœurs? Vous voyez, même, c'est pour cela, comme l'Éternel Dieu ne peut, comme l'humain ne peut pas vivre en présence de lui, il a envoyé, il s'est incarné, il a pris une forme, il s'est restreint, parce que en prenant un nom, Elohim s'est restreint en prenant un nom. Il s'est restreint en prenant, parce que il est sans limite, il est illimité, il est plus grand que cet univers, il est illimité que cet univers, vous voyez, il est grand, nous ne pouvons pas savoir cela. Vous savez, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas appréhender totalement Dieu, Elohim ou la divinité. Donc, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui. Mais lorsque nous serons dans la gloire, nous comprendrons toutes choses. Donc, des fois, ne cherchons pas à comprendre Dieu. Ne cherchons pas à comprendre Elohim. Ne cherchons pas, mes frères et sœurs, à appréhender, à cerner. Personne ne peut cerner l'Éternel Dieu, mes frères et sœurs. Yeshua même, il a dit que personne n'a jamais vu Dieu. Seul le Fils unique qui était dans le sein du Père, il était en lui. Il était en lui, la parole, la lumière, et il s'est incarné. Il est venu dans ce monde. Il s'est restreint pour pouvoir nous approcher, pour pouvoir nous racheter de la vaine manière de vivre, pour pouvoir nous sauver. Il s'est restreint, vous savez, les ténèbres. Donc, ce qui fait que lorsque Jean, l'apôtre, Yohanan, a vu le Messie dans l'Apocalypse, mais il n'en revenait, il était tombé à ses pieds. Parce que le Messie était dans sa gloire, était dans toute sa gloire. Mes frères et sœurs, nous devons comprendre cela. Donc, des fois, ne cherchons pas à servir Dieu. Donc, c'est comme si l'Éternel Dieu a mis quelque chose devant lui pour que l'être humain puisse supporter un intermédiaire. Il a mis un intermédiaire, un pont entre lui et l'humanité. Ce pont, c'est Yeshua. Ce pont est Yeshua. Ce pont est cet ange de l'Éternel, l'ange de la face. Ce pont est le Messie divin. Le Messie divin. Donc, je profite également pour refuter également toute cette religion qui pense que Dieu, Elohim n'a pas de fils. Le fils ne veut pas simplement, ne veut pas dire semence, ne veut pas dire quelqu'un qui vient de ta semence. Mais non, c'est pas ça, c'est pas, prêter des caractéristiques humaines à Elohim. Non, pas du tout. On le réduit ça. Il est Elohim. Il peut tout faire. Cette lumière est venue dans ce monde. Cette parole s'est faite chair. Et quand à cette grande religion qui refuse que Dieu n'a pas de fils, ils l'ont même écrit sur la mosquée d'Al-Aqsa, ils n'ont qu'à savoir que, en lisant bien le Coran, vous savez, le Coran a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'anachronismes, parce que le Coran désigne Yeshua comme le fils de Marie, sœur d'Aaron. Or, quand même, il y a quand même 10 siècles qui séparent Aaron et Myriam, la mère du Messie. Vous voyez, Dieu ne peut pas se tromper. L'Esprit de Dieu ne peut pas se tromper. Seuls les hommes se trompent. Donc, le Coran n'est pas une œuvre divine. C'est une œuvre humaine. Mes frères et sœurs, c'est une œuvre humaine. Donc, éloignons-nous de cela. Éloignons-nous de cela. Si vous connaissez des adeptes de cette grande religion, parlez-leur, révélez cette sourate-là, où on a fait de Myriam, la mère de Jésus, la sœur d'Aaron. Ou bien, on a même dit que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, de Johanna à Matville, a gardé Myriam, ou bien a gardé le Messie. Mais non, vous savez, là, c'est pas vrai, ça. Ça ne se trouve dans aucune Bible. Et puis, il y a aussi d'autres approximations comme ça. Hein. Voilà, d'autres approximations comme ça. D'accord? Voilà. Bon, allons-y. Donc, personne n'a jamais vu Dieu. La Bible nous le dit, que personne n'a jamais vu Dieu. Et que Dieu habite une lumière inaccessible qu'aucun n'a jamais vue. Lisons dans 1 Corinthiens 13, le verset 9. 1 Corinthiens 13, le verset 9. Cela veut dire que personne n'a jamais vu le Père. Personne ne l'a jamais vu. Et c'est le Fils qui l'a fait connaître. Le Fils qui a pris une forme humaine, comme lui-même, il a dit dans Hébreux. Et même Hébreux nous dit, en commençant par que Dieu a parlé de différentes manières, mais ces derniers temps, il s'est fait connaître par son Fils. Par le Messie divin qui est son Fils. 1 Corinthiens 13, le verset 9. 1 Corinthiens 13. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. C'est-à-dire que ce que je dis là, c'est limité aussi à la connaissance que j'ai du Messie. Est limité. Donc vous, sûrement que vous avez d'autres connaissances que moi. Hein, vous savez, l'Esprit de Dieu nous révèle des choses. Et si nous nous attardons à la parole, la Bible nous dit que celui qui réfléchit sur les choses est heureux. Et celui qui craint l'Éternel trouve le bonheur. Voyez, il faut réfléchir sur l'Éternel. Dieu nous a donné un cerveau pour réfléchir et le Saint-Esprit pour comprendre sa parole. 1 Timothée 6, le verset 16. Lisons. 1 Timothée 6, le verset 16. Oh, qu'est-ce qu'on nous dit? Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul n'a vu, nul ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance souveraine éternelle. Amen. On parle de Elohim. Je te recommande devant Elohim qui donne la vie à toutes choses, devant le Messie, Yeshua, qui fit une confession excellente devant Ponétios Pilatos. Bon, on a laissé son nom en romain ou bien en grec, hein, Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche irrépréhensible jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Christ Yeshua, que manifestera en son temps le bienheureux seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On parle de Elohim, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul n'a vu, nul ne peut voir, à qui appartient l'honneur, la puissance souveraine, éternelle. Amen. Et mais également dans 1 Jean 4, parce qu'il dit qu'on ne voit pas Dieu, on ne connaît pas le Elohim. 1 Jean 4, le verset 12. Personne n'a jamais vu à Elohim. Voilà, personne n'a jamais vu à Elohim. C'est ce que Jean 1, 18 dit. Personne ne l'a jamais vu. D'accord? Ni Abraham, ni Moïse, ni le peuple hébreu, qui est, ni les 70, les anciens ne l'ont jamais vu, n'ont même pas vu son pied. Qui ont-ils vu alors? Ça ne peut être que le Messie, ça ne peut être que Yeshua, parce que l'Éternel Dieu est invisible, il habite une lumière inaccessible qu'aucun œil n'a jamais vu. On dit aucun œil n'a jamais vu, donc aucun œil n'a vu rien du Père, aucun œil ne l'a jamais vu. Donc les anciens d'Israël n'ont pas pu voir l'Éternel Elohim, n'ont pas pu voir l'Éternel Dieu, n'ont pas pu voir le Père, ne l'ont pas vu. D'accord? Lisons dans Deutéronome 4, le verset 12. Deutéronome 4, le verset 12. Alors, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Deutéronome 4, le verset 12. Je vais lire Deutéronome 4, le verset 12. 4, le verset 12, on nous dit... Et l'Éternel vous parla du milieu de ces feux. Vous entendiez le son des paroles, mais vous ne perceviez aucune image, rien qu'une voix. Vous voyez, la différence entre le Dieu que nous adorons est que c'est un Dieu qui parle, qui est vivant, qui agit. Hein? Alors que les divinités païennes sont visibles, ont une forme, mais elles ne parlent pas, elles ne se déplacent pas, elles ont des bras, mais elles ont des oreilles, mais elles n'entendent pas, elles ne font rien. Alors que nous, l'Éternel Dieu, est invisible, mais il parle, il agit et il a fondé ce monde. Voilà, il y a une différence. Il y a une différence avec tout cela. Donc, je disais tout à l'heure, je peux m'hasarder à dire cela, que si les anciens d'Israël ont vu le pied de la divinité d'Israël, je suis sûr que l'être qui apparaissait en Israël, ou bien qui va apparaître en Israël, après ce mandataire dont la divinité du Père est en lui, voyez, c'est-à-dire que c'est un être divin, voilà, c'est ça, ne peut être que Yeshua, celui qui s'est incarné, qui est venu dans ce monde, et à qui on a donné le nom de Yeshua, le Messie. Parce que c'est lui seul qui a pris une forme humaine. La Bible nous dit qu'il a été rendu semblable aux hommes. Et il a été rendu semblable aux hommes. Et également, nous voyons que dans Daniel, déjà, on avait quelques signes. Parce qu'on nous a dit que il y a un fils de l'homme qui s'était approché de l'ancien des jours, et qu'on a donné la domination, toute la domination lui a été donnée. Dans Daniel 7, le verset 13 à 14. Daniel 7, le verset 13 à 14. C'est ce que la Bible nous dit, hein, mes frères et sœurs. Lisons la Bible. Hein? Daniel 7, le verset 13 à 14. Environ s'y approcher. Ouais, ce sont des événements célestes. Ce sont des événements célestes que Daniel nous a rapportés. Des événements célestes que Daniel nous a rapportés dans la lieu céleste. On dit, on fit approcher. Je continue de regarder alors de la suite des paroles arrogantes que, oh non. Je regardais encore dans la vision nocturne et voici qu'au sein des nuages célestes survint quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Ça ressemble à ce que le Nouveau Testament a dit, que Yeshua a été rendu semblable à un être humain, parce que l'Éternel Dieu ne peut pas s'approcher à nous. Il va nous allons tous mourir, disparaître. Donc il s'est approché en se restreignant, voyez, en diminuant sa gloire, en enlevant sa gloire dans la personne de Yeshua. Dans la personne de Yeshua, il est venu, il s'est restreint. C'est-à-dire que si, par exemple, toi, c'est Washmani qui a donné cette image, qui dit que si un être humain voudrait s'approcher des oiseaux sans les effrayer, il faudrait qu'il se déguise en oiseau. D'accord? Il faudrait qu'il se transforme en oiseau. Ainsi, je regardais encore dans la vision nocturne et voilà, au sein des nuages célestes, survint quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Il arriva jusqu'à l'ancien des jours, c'est le Père, et on le mit en sa présence. C'est à lui que furent données la domination, la gloire, la royauté. L'ensemble des nations, peuples et langues lui rendaient hommage. Sa domination était une domination éternelle, immuable, et sa royauté ne devait plus être détruit, c'est-à-dire éternel. Ce ne pourrait être que le Messie Yeshua. Le Messie Yeshua. Et effectivement, nous lisons, il y a quelques curiosités dans la parole de Dieu que j'aimerais que nous examinons. Par exemple, si nous lisons par exemple dans Michée 5, le verset 1. Michée 5, le verset 1. Or, c'est de toi, cette prophétie a été reprise dans les évangiles. Or, c'est de toi, Bethléem Ephrata, si peu importante parmi les groupes de Juda, c'est de toi que je veux que sorte celui qui est destiné à dominer sur Israël et dont l'origine remonte au temps lointain, au jour antérieur. Ils ont appelé le thème aussi, c'est Olam, Olam. Ça veut dire qu'il y a l'éternité, Olam, l'éternité. Donc, le Messie qui est le roi, puisqu'il sera appelé fils de David, descendant de David, dont les autres remontent à l'éternité. On parle du Messie. Donc, ceux qui refutent la divinité de Yeshua n'ont rien compris. C'est l'esprit de l'anti-Messie, puisque c'est ce que la Bible nous dit. Tous ceux qui refutent que Yeshua est venu en chair, il est venu en chair, il est mort, il est divin, il est venu en chair dans ce monde pour pouvoir nous racheter, que c'est l'esprit de l'anti-messie qui dit cela. Agai. Hein, lisons dans Agai. Agai 2, le verset 9. Plus grande sera la splendeur de ce second temple que celle du premier, dit l'Éternel Zébaoth. Et en ce lieu, je ferai régner la paix, dit l'Éternel Zébaoth. Voilà, il y a deux moments dans ce verset. Deux moments dans ce verset, je vais vous expliquer. Deux moments dans ce verset. Vous voyez, par exemple, le second temple avait une gloire moindre que le premier. Mais pourquoi ici Agé, le prophète Agaï, si vous voulez, dit que ce second temple sera plus splendide? ou bien était plus splendide, parce que pendant qu'il parlait, le second temps n'était pas encore. Donc, est plus splendide que le premier, ou bien est plus important, est plus beau, est plus joli que le premier. Non, on peut dire que il y a une contradiction au niveau architectural, au niveau des matériaux qui ont été employés. Non, le second temple n'était pas plus beau, plus splendide que le premier. À une seule condition, sauf si le Messie y est entré. Mais oui, sauf si le Messie est entré, parce que le Messie, mais c'est un Messie divin, c'est la gloire du Messie qui donne la splendeur à ce temple, la gloire du Messie qui a donné la splendeur au second temple, au second temple. Ce verset a valu beaucoup, cette traduction a valu beaucoup de critiques à Sadoc Khan, parce que on l'avait soupçonné de connivence avec la notion messianique chrétienne. Là, ça n'est de connivence, mais la deuxième partie du verset n'est pas encore réalisée. En ce lieu, je ferai régner la paix, dit l'Éternel Zébaud. La paix n'est pas revenue. Jérusalem connaît toujours des guerres. Le monde aussi connaît toujours des guerres. Les guerres du Congo actuellement, les guerres de l'Ukraine, ainsi de suite. Le monde n'est pas en paix ou bien. En Birmanie également, on guerroie là-bas. Les gens meurent tous les jours dans différentes parties, ou bien en Amérique du Sud, en Colombie et autres. Il y a des guerres qui sont là. La paix n'est pas revenue. Et c'est la seconde partie de ce verset va se réaliser lorsque Yeshua reviendra, ce sera pour bientôt. Sachez que dans la pensée juive, il y a deux messies, deux venues messianiques. Il y a le messie Ben Yosef, le messie souffrant qui viendra en premier. Nous savons que c'est Yeshua. Et le Messie Ben David, qui est le Messie régnant, si vous voulez, hein, qui va instaurer la paix un peu partout. Nous savons que c'est le même être, c'est la même personne. Hein, c'est la même personne, c'est Yeshua. Il est venu une fois pour donner sa vie, pour le salut de l'humanité. Il reviendra maintenant pour pacifier le monde, pour juger le monde. Voilà, et il réalisera cette seconde partie du verset. Lisons dans Zacharie. C'est important de lire dans Zacharie. Et ça aussi, ce verset aussi a posé des problèmes. Hein, a posé des problèmes parce que on parle du pied de l'Éternel. Or, l'Éternel n'a pas de forme. Dieu est invisible, nous avons lu, qu'il habite une lumière inaccessible, qu'aucun œil n'a jamais vu, qu'aucun œil ne verra et n'a jamais vu. D'accord, mes frères et sœurs? Mais nous verrons le Messie tel qu'il est, parce que la Bible nous dit que nous serons changés, nous serons semblables à lui de gloire en gloire. Mes frères et sœurs, lisons dans Zacharie 14, selon les commentateurs juifs, Juif, c'est le Messie. Hein? C'est le Messie. Parce que dans Zacharie 14, donc 3 à 4. Alors l'Éternel s'en viendra guerroyer contre ses peuples, comme jadis il guerroya au jour de la rencontre. Bon. Ce jour-là, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, qui est en avant de Jérusalem à l'Orient, et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu de l'Est à l'Ouest, formant une gorge immense. Une moitié de la montagne reculera vers le Nord, l'autre moitié vers le Sud. On parle de l'Éternel qui a un pied. Non, c'est pas possible. Et selon les commentateurs juifs, c'est le Messie. C'est le Messie. Si le Messie peut prendre la place de l'Éternel, cela veut dire que il est divin. Si le Messie peut prendre la place de l'Éternel, puisque la Bible nous spécifie que l'Éternel viendra, la Bible ne peut pas, c'est la vérité, que le Messie va, que l'Éternel va venir, c'est que c'est l'Éternel qui va venir. Donc, cet éternel-là ne peut être que le Messie. Si c'est le Messie, alors c'est un Messie divin. C'est quelqu'un qui peut prendre, qui peut représenter l'éternel, qui peut prendre sa place. Or, Yeshua lui-même, ou bien Jean nous témoigne que le Fils qui est au sein, qui est au sein, dans le sein de Elohim, l'a fait connaître. Et que Yeshua est l'image du Dieu invisible. Du Dieu invisible. Donc, s'il est l'image, alors c'est lui. C'est lui. Il ne peut être que divin, puisque la Bible dit que c'est l'Éternel lui-même qui va venir. Mais c'est que, on parle du pied de Dieu. Sinon, c'est pas possible. Donc, le seul être qui a une forme humaine, qui est venu dans ce monde, qui s'est incarné dans ce monde, mais c'est Yeshua. L'Éternel est sauveur, ou l'Éternel sauve. Le nom de l'Éternel est en lui. La divinité, la nature de l'Éternel est en lui. Il est l'image du Dieu vivant, du Dieu invisible. Je vais terminer pour ne pas être long en lisant le livre d'Hébreux. Le livre des Hébreux. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières partagé à nos pères par les prophètes, Elohim dans ces derniers temps nous a partagé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi fait les siècles. Lui qui étant le reflet de sa gloire et l'expression exacte de sa personne. Oh là là, c'est magnifique. Quelle révélation. Vous voyez, le Fils, le Messie Yeshua, est l'expression exacte d'Elohim. C'est pourquoi Yeshua a pu dire à Thomas, celui qui l'a vu, a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Mais le Père est invisible. Voilà, celui qui a vu, tu vois, je suis le Père. Qu'il est le Père. Il n'est pas le Père, mais qu'il est le représentant. Parce que lui et le Père, ils sont un. Parce que leur volonté ne diverge pas. Ils sont unis. Leur volonté ne diverge pas. D'autant plus que Yeshua dit qu'il ne fait rien sans l'avis du Père. Lui qui étant le reflet de sa gloire, il est le reflet de la gloire du Dieu invisible, l'expression exacte de ce Dieu invisible, soutenant toute chose par la parole révélée de sa puissance, a fait par lui-même la purification de nos péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Et il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, car auquel des anges, Elohim, a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, encore je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, vous avez vu, de nouveau ils ont dit. Donc si on dit de nouveau, c'est que il avait déjà été introduit avant. Il dit de nouveau. Il dit, tous les anges d'Elohim l'adorent. C'est comme ça. Mais il dit au fils, ton trône, ô Elohim, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'absence des enseignements de la Torah. C'est pour cela même dont on vient de parler que, ô Elohim, ton Elohim t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. De tes semblables. Mon frère, mes sœurs. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire, mais bon, je vais m'arrêter là, sinon ce serait trop long. Yeshua est de nature divine. Il est le Seigneur. Il est le seul intermédiaire entre Dieu, l'éternel Dieu, entre Elohim et l'humanité. Il est le reflet exact, l'expression exacte de sa personne, de la personne d'Elohim. Mes frères et sœurs, nul ne va au Père que par lui. Même les sacrifices qui se faisaient dans l'ancienne alliance étaient des substituts de Yeshua. C'est pourquoi il a dit, nul ne va au Père que par lui. Mais oui, nul ne va au Père que par lui, parce que ces sacrifices étaient des substituts de sa personne. Avant que le vrai sacrifice même n'arrive, quelques années, donc quelques siècles plus tard. Et Yeshua lui-même a dit quelque chose que lorsqu'il entrait dans le monde, il a dit, « Oh Dieu, tu m'as formé un corps. » Voilà, tu m'as formé un corps, puisque Yeshua existait, préexistait, donc avant la fondation du monde, avant la fondation du monde. Voilà, je ne me souviens plus de ce verset, je pense que je ne sais pas où c'est, mais étant étudiant de la Bible, vous le savez, lorsque le Fils entra dans le monde, il dit, « Oh Éternel, tu n'as voulu ni sacrifice, ni rien du tout, mais tu m'as formé un corps. » Tu m'as formé un corps. Je pense que c'est dans Hébreux 10, non? Oui, c'est ça, c'est Hébreux 10. Voilà, Hébreux 10, le verset 5. C'est pourquoi le Messie entrant dans le monde, Christ entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande expiatoire, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni sacrifice d'élévation, ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit, « Voici, je viens avec le rouleau du livre où il est écrit de moi pour faire, ô Elohim, ta volonté. » Que le Ténèbre, notre Dieu, nous bénisse et nous garde, nous sanctifie et nous éclaire. J'espère que je ne vous ai pas mis dans la confusion, mais plutôt que j'ai éclairé un peu plus votre lanterne ou bien la personne de Yeshua. La personne de Yeshua n'est pas ce que nous voyons sur les cartes postales ou bien sur les figurines ou bien sur comment est-ce qu'on les appelle là? Ce ne sont pas des photos, mais bon, c'est des images. On les dénommait images pieuses, voilà, qui représentent un homme européen barbu, des fois, avec les traits très efféminés, ainsi de suite. Non, oublions tout ça, oublions le petit Jésus également de Noël, ainsi de suite. Bon, quand on veut pousser les choses plus loin, on peut dire que Yeshua n'est pas vraiment né. Il n'est pas né, il est venu dans ce monde, puisque son existence remonte aux temps anciens, aux jours d'autrefois, à l'éternité. Mes frères et sœurs, comprenons le Messie que nous servons, le Messie que nous adorons, ainsi de suite. Comprenons également le Dieu que nous adorons, mes frères et sœurs, et n'imaginons pas que la divinité est une représentation humaine, mes frères et sœurs. Comprenons cela. Donc, ne laissons pas ces images-là nous divertir ou bien transformer nos pensées, les images. On nous a mis ces images dans notre tête depuis très, très, très longtemps. Donc, il y a certaines personnes qui ne veulent pas se délaisser ces images-là, dites pieuses, ainsi de suite, que même l'acteur qui a joué dans Les Passions, il a aujourd'hui sa photo dans certains foyers, en Afrique, un peu partout dans le monde, même ici, en Europe, hein. Voilà, il a sa photo même dans certaines églises catholiques aujourd'hui. C'est quoi ça? C'est du n'importe quoi, c'est de l'idolâtrie. D'accord? C'est vraiment de l'idolâtrie, mes frères. Éloignons-nous de ces images. Même des églises évangéliques, dans leur publication des fois, dans leur affiche publicitaire, mettent ces images. Normalement, si vous mettez même un corps, oui, Yeshua a un corps humain, vous mettez ces images, mais au moins mettez une lumière sur son visage, parce qu'on ne connaît pas son vrai visage. Mes frères et sœurs, on ne connaît pas son vrai visage. Donc, éloignons-nous de cette chose, parce que c'est un péché. Je le dis encore, c'est un péché. Certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi. C'est un péché, c'est ce que la Bible nous dit, de ne pas représenter ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre. De ne pas représenter, de ne pas nous prosterner devant ces choses. Mais aujourd'hui, les gens se prosternent devant ces images dites pieuses, se prosternent devant, disant que c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Mais non, Yeshua n'est pas comme cela. Et certaines personnes également, j'ai entendu ce commentaire dire oh, que nous n'allons pas appeler le Messie Yeshua parce que nous avons été sauvés au nom de Jésus. Mes frères, c'est bête et ça reflète l'ignorance des uns des autres. La personne qui était allée sur la croix de Golgotha ne s'appelait pas Jésus. Il s'appelait Yeshua. C'est ce que Ponce Pilate a fait mettre en langue hébraïque, en langue hébreu et en langue latin. En langue et grecque, on a dit Jésus. Voilà, Jésus qu'ils ont dit. D'accord? Voilà. Et c'est Yeshua qui est allé. L'appellation Jésus est venue plus tard dans la littérature ou bien dans l'appellation, dans les Bibles. D'accord, mes frères et sœurs? Donc, Yeshua, si ce n'était pas ainsi, mais même le nom de Jésus ne chasserait pas les démons. Si Dieu n'a pas fait la correspondance, parce que comme les hommes ont translittéré le nom du Messie, mais l'Éternel Dieu s'est adapté. D'accord, l'Éternel Dieu s'est adapté. Il y a une correspondance parce que il y a que lui, Yeshua, qui est Jésus en français, qui s'est donné, qui a vaincu le diable, qui a vaincu le démon, qui a vaincu le péché et qui nous donne la grâce d'entrer dans le royaume des cieux. Et également, si vous allez en Israël, chez certaines personnes, ils appellent le Messie, ils refusent de l'appeler Yeshua parce que Yeshua veut dire l'Éternel sauve. Ils préfèrent l'appeler Yeshua. Cela veut dire il a échoué ou bien que son nom soit banni, soit effacé au fait, c'est ça. Il a échoué ou bien que son nom soit effacé. Cela veut dire ça. Il ne faut pas qu'on vous trompe parce que dans certains milieux rabbiniques, ils dénomment Yeshua comme ça. Ne l'acceptez pas. Faut pas l'accepter ça. Faut pas accepter ce nom. Son nom ne sera pas effacé, mais son nom va aller de gloire en gloire. Et il revient bientôt et il mettra tout le monde d'accord. Il mettra tout le monde d'accord. Il est venu une première fois en tant que Messie souffrant. Il reviendra encore. Il reviendra la deuxième fois comme le Messie triomphant qui va installer donc le royaume, le millénium à partir de Jérusalem. Et tous ceux qui l'ont maltraité se repentiront et crieront à lui pour être sauvés. C'est ça, ils feront. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Toutes ces personnes qui disent que son nom soit effacé ou bien qu'il a échoué et parce que il n'a pas ramené la paix ainsi de suite, ils oublient que il y a deux types de messie, même dans le judaïsme. Des fois, les rabbins même se contredisent. Des fois entre eux, ouais, comme aussi les chrétiens se contredisent entre eux. Ça aussi, c'est propre aussi à l'être humain. Donc, le Messie souffrant, Ben Yosef, et Machia Ben David. Mais nous savons que c'est la même personne et Yeshua revient bientôt. Il dit qu'il revient rapidement. Il revient rapidement. Lisons pour terminer. Donc, Apocalypse 1, lisons, Apocalypse 1, nous lisons, Apocalypse 1, révélation du Messie Yeshua que Elohim lui a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son esclave, Yohanan, lequel a attesté de la parole de Ha Elohim et du témoignage du Christ, Messie Yeshua, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Mes frères, mes sœurs, le temps est proche. Que l'Éternel nous bénisse et nous garde et nous donne la grâce de garder la foi jusqu'à la fin. Amen et Amen.